Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec eux leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à vous développer afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le gratin Nathanael Wright, président et fondateur de Wall Street English France, que vous connaissez certainement, notamment si vous êtes parisien, pour toutes les publicités dans le métro qu'on a très souvent vues. Nathanael est assez peu présent sur le monde des réseaux sociaux, vous pourrez ceci dit lui dire bonjour sur LinkedIn où il s'égare de temps en temps, et sinon allez jeter un coup d'œil au site de Wall Street English pour découvrir leur univers et pourquoi pas aussi participer à des formations. Nathanael est un développeur dans toute sa splendeur. En 1983, son père importe le concept Wall Street English d'Italie et en achète les droits pour la zone francophone. Il frôle la faillite et appelle Nathanael, alors expatrié au Kenya, à la rescousse. On est en 1993. À peine 3 ans plus tard, en 1996 donc, celui-ci fait complètement décoller l'entreprise et rachète la boîte paternelle pour en devenir président. Depuis, Nathanael n'a eu en tête que de développer l'activité des centres Wall Street en France jusqu'à devenir aujourd'hui le leader incontesté des formations à l'anglais en France et le plus gros pays franchisé du réseau Wall Street English. Alors pourquoi ai-je voulu avoir Nathanael sur le podcast ? Déjà pour aborder une autre facette de l'entrepreneuriat qui est peu mise en valeur, je trouve, dans les podcasts et autres médias sur le monde de la tech et des startups, ce que j'appellerais le développement d'une activité de franchise. Aujourd'hui, comme le rappelle Nathanael au cours de l'épisode, 80% des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises se plantent au bout de 3 ans. C'est énorme et le rapport est complètement inversé avec la franchise qui donne un cadre et surtout un produit éprouvé, comme le rappelle Nathanael, pour réussir à se lancer. Une aubaine, vous allez me dire, pour un entrepreneur. Le terme franchise n'est peut-être pas sexy, mais pourtant, quand on voit des succès comme celui de Nathanael, d'un Big Fernand que j'avais interviewé sur le podcast, ou encore du fameux Ray Kroc, évidemment le fondateur, entre guillemets, du monde de la franchise, fondateur de McDonald's, force est de constater que l'univers de la franchise a beaucoup, beaucoup à nous apprendre et délivre des résultats sonnants et trébuchants. Je retiens de nombreux points de notre conversation. D'abord que créateurs et développeurs sont deux métiers totalement différents, qu'il ne faut pas confondre, et qu'on a vite fait de passer 80% de son temps sur la création, souvent par ego d'ailleurs, quand on ferait mieux de développer un produit qui marche. Deuxièmement, les vraies belles opportunités se cachent souvent là où elles sont le moins attendues. Je cite Nathanael, si un banquier croit en ton business, fuis. Si personne ne veut te prêter, tu tiens une vraie opportunité. Il le dit sur le ton de la boutade, mais blague à part, le fait d'identifier une croyance universellement partagée, tout en sachant qu'elle peut être battue en brèche, ici en considérant que des particuliers seraient prêts à payer pour leur propre formation, alors que la terre entière lui disait de se concentrer uniquement sur le marché B2B, eh bien c'est probablement l'un des moyens les plus sûrs de trouver une bonne idée. Troisièmement, sur la gestion d'un réseau de franchises, de très nombreuses pratiques qui paraîtront peut-être un peu techniques à certains, notamment lorsqu'on s'est appesanti sur la dimension juridique des contrats de franchisés, mais qui, je pense, pourront donner des conseils vraiment concrets à ceux qui envisagent ce type d'entreprise. Et enfin, une énergie, une volonté, une ténacité même assez hors norme qui m'a rappelé quelques autres invités que j'avais eus sur le podcast, par exemple un Michael Preto, mais très peu d'entre eux. À tel point, Nathanael a une hygiène de vie presque monacale entre son régime cétogène et sport de haut niveau. Amis sportifs, écoutez l'épisode jusqu'au bout. On a beaucoup, beaucoup discuté des impacts du régime cétogène justement sur le cancer et les articulations. Comme quoi, quand on rencontre des gens passionnants et passionnés, on ne sait jamais trop où la discussion va nous emmener. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nathanael Wright. Bonjour Nathanael et bienvenue sur le podcast.
Bonjour Pauline.
Merci d'être venu jusqu'ici, je sais que ça a été compliqué. J'ai plein de questions à te poser et je voulais commencer en fait tout simplement par le début, ce que je fais rarement sur le podcast, en général c'est plus compliqué, mais en fait ton parcours m'a semblé tellement intéressant que je voulais reprendre par le commencement et donc en fait te poser une question sur ta jeunesse, ton enfance et juste que tu m'expliques d'où tu venais parce que je crois que tu es d'origine britannique, si je ne me trompe pas.
Oui.
Est-ce que tu peux me dire, quelle était un peu l'ambiance familiale chez toi, où est-ce que tu es né et quelles étaient tes caractéristiques de jeune homme, c'est-à-dire est-ce que tu avais des traits de personnalité qui ressortaient particulièrement ?
Alors ma famille prétend que j'étais très colérique quand j'étais jeune, que j'étais un enfant absolument insupportable. Je ne m'en souviens pas, donc je ne
et
peux pas cautionner. Je le nie absolument.
Très bien.
Et que quand j'ai fait ma crise d'adolescence, je suis devenu un ange. Donc j'ai fait l'inverse de comme très souvent, j'ai fait l'inverse de ce que les autres font.
Très bien. Et donc à l'époque, vous habitiez en Angleterre ou vous étiez en France ?
Alors moi, je suis né en Angleterre et je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans.
D'accord.
Et bon, puisque nous sommes dans les langues, je suis arrivé en juin et en septembre, je parlais plus l'anglais, je parlais que le français.
Ah ouais,
donc,
c'est impressionnant.
Je soupçonne que ma mère m'a pas mal parlé français quand j'étais plus petit et que donc j'ai juste switché sur l'autre langue. Et comme tout enfant, voyant les autres parler le français, il a refusé de parler l'anglais derrière.
Tu avais un rêve petit de carrière, enfin, tu te projetais, tu savais ce que tu voulais faire plus grand ?
Alors, mes parents me disent que je disais toujours que je serais patron.
Ah d'accord, voilà. T'étais assez... Et ça venait d'une culture familiale ou tu sais comment ça t'est venu ? T'arrives avec un peu de recul à y réfléchir ?
Alors, pas du côté de mon père du moins au départ, parce que lui était cadre sup chez Unilever.
D'accord.
Mais toute la famille est commerçante, et donc entrepreneur, a priori.
Donc ça t'avait marqué.
Et donc, c'est juste normal pour nous.
D'accord. Et donc, si je ne me trompe pas, tu commences quand même ta carrière, non pas dans l'entrepreneuriat, mais d'abord avec des jobs, on va dire, réguliers. Et un beau jour, j'ai cru comprendre que donc, bah, tu rejoins finalement ton père dans une aventure qui était entrepreneuriale, et lui-même s'était mis à l'entrepreneuriat, qui était Wall Street, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait ce shift ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui écoutent le podcast, qui justement sont employées, qui sont salariées et peut-être rêvent d'entrepreneuriat, mais n'osent pas franchir le pas. Comment est-ce que toi, tu décides un jour donc, de quitter ton job un peu abruptement, si je ne me trompe pas, pour en plus rejoindre une aventure qui est celle de ton père initialement ?
Ça remonte à mes 15 ans, en fait. Et quand j'avais 15 ans, un jour, mon père rentre du travail. On habitait au Japon. Il était directeur marketing chez Unilever. Tout se passait bien. Enfance dorée, expatriés, bref. Et il rentre un jour du travail. Il me dit, je suis viré. Et là, j'ai un peu de mal à comprendre au départ. Et je lui dis, bon, c'est pas grave. Tu vas retrouver un autre job. Non, t'as pas compris. Je suis viré. Et donc, on rentre en France, et là, je lui demande pourquoi. Et il me dit, bah, on était trois, ils en ont choisi un, et puis voilà, les deux autres tombent. Et je me souviens très bien du moment, et là, je me suis dit, bon, bah, je ne ferai pas ça. Mmh. Et donc, je serai entrepreneur.
Ouais,
je
ne laisserai pas
quelqu'un
à
40 ans décider de ma vie. Et donc, j'ai décidé de faire HEC derrière, parce que... semblait que c'était la bonne voie à faire pour quelqu'un qui vient du 93, de sa banlieue dans laquelle on se battait régulièrement, etc. C'était pas évident.
Ouais.
Une petite anecdote, ma grand-mère, donc toute ma famille vient du 93, ma grand-mère, quand je lui ai dit que j'avais intégré HEC, m'a dit « Ah bon, c'est bien mon petit-fils, c'est quoi HEC ?» Donc c'était vraiment le niveau de connaissance que nous avions de familial, à part mon père qui lui côtoyait d'autres HEC dans son travail. Et donc, non seulement j'ai décidé d'être entrepreneur, mon père, entre-temps, est devenu entrepreneur puisqu'il a introduit en France l'idée de Wall Street, qui était une idée italienne qui cherchait à se franchiser à l'extérieur. Et nous avons été le premier pays en dehors d'Italie, le premier pays franchisé. Et je l'ai aidé au départ. J'ai continué mes études derrière et il y avait un dicton familial. Enfin, mon père me répétait tout le temps, va faire tes erreurs chez les autres avant.
Pas mal.
Et donc, j'ai été faire mes erreurs chez les autres avant. J'ai fait du conseil en stratégie, j'ai fait de la banque. Et un jour, mon père m'a appelé alors que j'étais au Kenya en VSN, à la banque Indosuez qui n'existe plus. Mais bon, c'était une belle banque quand même.
Ouais.
Et il m'a dit, il faut que tu reviennes parce que j'ai un super job qu'on vient de me proposer. Et ça me paye plus que le chiffre d'affaires de la boîte. Donc, il faut que je le prenne, il faut que tu prennes la relève. Et donc, on est rentré, puis on a pris la relève. À l'époque, il y avait une école et demie, à peu près.
Mais attends, toi, t'es quand même, t'as un job, t'es au Kenya. Enfin, je comprends que t'avais des aspirations entrepreneuriales, mais couper du jour au lendemain et en plus travailler avec son père, j'imagine, c'est quand même pas évident. Le business familial aussi, c'est un vaste sujet. Est-ce que, enfin, t'as hésité ? Ça a été une évidence pour toi d'y aller ? Tu te projetais comment à l'époque ?
Alors, le VSN s'arrêtait, Donc on arrivait en fin de période quand même. Donc on hésitait à l'époque avec ma femme, soit rester au Kenya, soit rentrer. Je travaillais dans la banque, donc j'avais trouvé un bon petit business au Kenya, puisque on avait le droit de faire, c'est un des rares pays où on a le droit de faire du change à titre privé, et donc toute la communauté française venait faire du change chez moi.
D'accord, donc t'avais quand même
on vivait bien, parce que c'est pas avec la solde militaire que, avec une femme et un bébé d'un an au Kenya, qu'on arrive à s'en sortir. Et comme mes patrons à l'époque n'étaient pas forcément compréhensifs, il fallait bien que je me débrouille autrement. Donc je me suis débrouillé autrement, on vivait bien et on aurait pu continuer ce business-là. Il se trouve que le grand-père de ma femme était malade, mon père m'appelait, donc on est rentré.
D'accord.
Assez simplement, on ne se pose pas trop de questions.
Et justement, ce saut quand tu vas travailler avec ton père, donc même si tu ne te poses pas trop de questions... À l'époque, quand tu arrives, vous êtes en train de commencer à développer le business, mais qui est encore assez naissant. Tu sais, je crois qu'il y avait une ou deux franchises à l'époque,
oui.
C'est ça
oui.
Toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Quel est ton rôle et quelle est ta place? Parce que je trouve très intéressante cette question, justement, je te disais, de la transition familiale. Ce n'est pas toujours évident. Et souvent, quand tu as un papa entrepreneur, il a un peu envie d'être au four et au moulin. Ce n'est pas évident aussi de lâcher. En même temps, il y a la relève qui doit arriver derrière. Je ne sais pas comment vous êtes organisé de ce point de vue-là et si tu as des conseils à donner.
Alors là, mon père était assez intelligent quand même et il m'a dit « tu viens et tu prends le relais ».
D'accord.
Et il a vraiment laissé une grosse partie de la place, même si ce n'était pas totalement, mais il a laissé une grande partie de la place, rien que par le fait qu'il avait son autre job à faire.
Ah d'accord, d'accord. Il avait un autre job.
Donc mais là où ça s'est compliqué en fait, c'est qu'il y avait mon père, mais il y avait également ma belle-mère.
D'accord.
Donc ma belle-mère, qui était source de problèmes familiales, forcément, puisque c'était la nouvelle femme de mon père, et donc
forcément.
Il fallait s'habituer avec toutes ces personnes-là. Tout le monde a respecté sa place, en fait. Et là où la troisième couche est arrivée, c'est que mon père ne respectait pas vraiment le concept Wall Street franchisé et avait créé quelque chose un peu à part, un peu comme s'il avait transformé un concept McDonald's dans, je ne sais pas moi, Hippopotamus par exemple.
Ah oui, donc il a été assez loin.
Voilà, et donc nous vendions à l'époque des cours d'anglais de haut niveau en face à face pour les agences de publicité.
Oui, donc rien à voir.
Voilà. Et donc, il s'est fait un nom dans ce milieu-là. Et donc, il y avait Wall Street Institute à l'époque et Peter Wright. Et les gens connaissaient Peter Wright.
Ah.
Et un jour, j'ai dit à mon père, moi, je ne m'appelle pas Peter Wright. Je n'ai pas les compétences pédagogiques qu'il avait. Et surtout, ça ne m'intéressait pas de me lever le matin à essayer d'optimiser comme une profession libérale, les 24 heures que j'avais à ma disposition. Et moi, je lui ai dit, je veux avoir 200 salariés qui, quand je me lève le matin, se mettent tous au boulot et on multiplie donc l'effet de levier par 200. Et donc, on ne peut plus s'appeler Peter Wright. On doit s'appeler Wall Street English. Et là, mon père, il m'a dit, OK, bon, monte ta petite filiale, on verra bien si ça marche, si ça ne marche pas, mais fais ce que tu veux. Donc, on a monté la petite filiale. La petite filiale a racheté la maison mère au bout de 2 mois. Et puis, l'entreprise Wall Street s'est lancée.
La suite, c'est l'histoire. Je trouve ça hyper intéressant que tu me parles de cette vision que tu avais de se dire, je voulais 200 salariés, je voulais avoir ce leverage, donc le fait de... Toi, ta bande passante, ton temps est limité dans une journée, donc tu sais très bien que si jamais tu veux scaler dans le terme anglo-saxon, en français, comment on dit, juste grandir, quoi, développer, voilà, c'est ça. Avoir des effets d'échelle, globalement, il faut des employés, il faut savoir les recruter. Et c'est vrai que le concept de la franchise, j'ai eu assez peu de personnes sur le podcast pour en parler pour l'instant, que je trouve très intéressant justement parce que normalement, c'est ce qui permet de faire. Toi, cette vision, tu l'as eu assez tôt ou c'est via le biais de Wall Street English et Wall Street Institute à l'époque que tu l'as développé? Ma question, c'est cette ambition, en fait, d'où elle t'est venue et quand est-ce, enfin, c'est à ce moment-là que ça s'est manifesté, ça te venait d'avant, enfin, comment tu peux l'expliquer?
Comme mes parents disaient, j'ai toujours voulu être patron. Je pense que le côté de patron, c'est être à la tête d'une équipe. Quand je jouais au foot, j'étais capitaine de l'équipe. Au Kenya, quand j'ai appris à jouer au rugby, parce qu'il n'y avait pas, d'équipe de football au Kenya pour les Français. Donc, je connaissais rien au rugby. Sauf que ça fait mal quand on se prend 120 kilos et qu'on le plaque de la mauvaise manière. Mais bon, au bout d'un an, j'étais capitaine de l'équipe de rugby. Donc il y a toujours cette volonté de faire travailler les gens ensemble, de savoir... Très souvent, mes collaborateurs me disent « Mais pourquoi est-ce qu'on va à l'international ?» Par exemple, quand on fait des réunions internationales, on sait tout ce qu'ils vont nous dire. Et je leur dis « Mais vous ne comprenez pas, on est juste là pour choper les 10% qu'on a loupés. » Et le reste, ce n'est pas grave. Ils ont leur boulot à faire. Ce sont des franchiseurs. Ils nous disent ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils veulent. On sait déjà ce qu'ils veulent. Mais il y a 10% auxquels quelqu'un va avoir pensé. Et ça, il faut les attraper. Mmh. C'est un peu ça le travail d'équipe, c'est que vous êtes face à un comité de direction, face à des équipes, on vous répond, on vous parle toujours de la même chose, et soudainement, il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant ou de différent. Et là, il faut l'attraper et il faut capitaliser dessus.
Belle leçon. Justement, le particularisme de la franchise, je trouve que c'est intéressant parce que pour beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer, alors qu'on lance sa propre franchise ou qu'on devienne franchisé, tu pars pas d'une feuille blanche. Est-ce que tu peux m'expliquer quand vous êtes arrivé, parce que j'y connais rien au monde de la franchise, quand vous êtes arrivé avec ton père et que vous avez commencé à développer le concept, concrètement, quels ont été les premiers mois, quelles ont été les premières étapes, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on veut lancer en fait son système de franchise?
Alors, il y a plusieurs points. Déjà, mon père n'avait pas d'argent, il venait d'être licencié. Du moins, on avait 2 années de prime de licenciement. Et puis, c'était tout ce qu'on avait. Il a été en Italie voir le fondateur, qui s'appelait Luigi Piccinini. Et une des histoires fondatrices de Wall Street, puisque c'était quand même le premier pays en dehors de l'Italie.
Ils avaient, excuse-moi de t'interrompre, déjà beaucoup de...
Il y avait 50 écoles en Italie.
Oui, donc c'était quand même déjà solide.
Ouais, le concept franchisé fonctionnait. Et donc, une des histoires fondatrices a été que ce monsieur Piccinini, qui vit encore d'ailleurs, il a vu arriver ce Français qui a essayé de lui expliquer qu'il fallait lui vendre la France pour 1 euro. Il dit à tout le monde qu'il l'a, pendant une semaine, il l'a rejeté. Ouais. Il l'a mis par la porte et il me disait, il rentrait toujours par la fenêtre. Et au bout d'une semaine, il a obtenu, alors pour une certaine très grosse augmentation, mais il a obtenu la France pour 3 euros, enfin 3 francs à l'époque.
Ah oui.
C'est quand même 3 fois plus cher que ce qu'il voulait. Donc ils étaient 3 partenaires et 1 franc chacun à l'époque. Ouais. Et donc après on a commencé, il est venu me voir en disant voilà, j'ai ce super contrat. On va mettre une pub dans le monde, c'est comme ça que ça marche. Préparez-vous, est-ce qu'on est tous prêts? Les gens vont faire la queue,
c'est ça,
à la sortie.
Ça va se déverser, voilà, sur nous.
Et bon, personne n'a appelé. Quoi. Donc, ça a été
donc
la
vous avez fait la pub dans le monde et
voilà.
Échec.
Oui. Donc ça a été la première désillusion, parce qu'effectivement, en Italie, ils avaient un savoir-faire étonnant où effectivement les gens faisaient la queue à l'ouverture de centres pour commencer à se former. Nous, on n'a jamais réussi à le faire, ça. On a les côtés feu de paille, on lance très fort, on n'est pas très bon, mais en revanche, dans la durée, on sait faire. Donc, première désillusion. Après, mon père, en tout bon cadre supérieur de l'époque, dit finalement, c'est pas ça qu'il faut faire. Le marché des particuliers, c'est pas le bon. Il faut aller chercher les entreprises. Et puis au bout d'un moment, ça marche toujours pas. Donc, il y a un directeur d'agence de pub qui dit, mais tu devrais faire de l'anglais pour le marketing au niveau, parce que dans le marketing, tu connais beaucoup de choses. Nous, directeur d'agence, c'est à toi ou des gens comme toi qu'on pitch normalement, ouais, et on parle pas un mot d'anglais. Ouais. Donc il a trouvé son métier de à ce niveau-là, mais c'était un petit business, ça faisait 700 000 francs quoi. Donc
et puis c'était très éloigné du concept de franchise initiale.
Oui, tout à fait. Mais convaincu que le système de franchise initiale ne marcherait pas, à part un point, la com.
D'accord.
Si on est dans le métro depuis si longtemps, puisqu'on est dans le métro depuis 86, je crois, 1900, 86. C'est grâce à mon père. Et c'était un homme de marketing, un homme de pub, et il voulait qu'on y soit. On était une boîte où on faisait 700 000 francs de chiffre d'affaires, on était déjà dans le métro. Donc c'est fou, c'est... Et ça a apporté toute la croissance de Bourse de Paris au départ. Sans aucune contestation possible. On est toujours dans le métro. On a des relations bonnes avec les gens du métro. Et on s'est même permis, à un moment où ils changeaient de stratégie, de leur expliquer ce que nous ferions si nous étions à leur place. Ils proposaient il y a quelques années... des packages où vous étiez obligé d'acheter telle ligne. Je dis, mais je ne veux pas telle ligne, je veux 15% du parc. Et je pense que, je leur ai dit, je pense que vous avez plein de panneaux vides et c'est peut-être lié à cela. On ne connaît pas vos lignes, on ne sait pas, on veut juste 15% des gens qui passent.
On veut de la puissance.
Ou
quoi.
10% ou 20%, vendez des pourcents et vous verrez, ça marchera. Je pense qu'ils ont changé. Et je pense qu'il n'y a plus de panneaux libres.
Oui, il y a beaucoup moins de panneaux libres. Ça, je dois dire qu'ils ont fait une sacrée... J'ai eu Valérie Descamps, la DG de Média Transport, sur le podcast. C'est une personne assez inspirante. Au niveau donc, du développement, je sais que vous avez eu un peu des difficultés financières au début. Justement, je trouve que c'est assez intéressant de parler de ça parce que la franchise, c'est... Une fois de plus, je n'y connais pas grand-chose, mais a priori, c'est un concept où il y a un apport aussi qui se fait de l'extérieur. Est-ce que tu peux m'expliquer justement, étant donné que vous aviez très peu d'argent, si je ne me trompe pas au début, comment vous avez fait pour commencer à financer la croissance justement de l'entreprise avec le concept de la franchise de Wall Street ?
Alors, il y a deux phases. Il y a la phase de mon père. Où de 83 à 93, on fait en fait Wall Street, publicité, formation, Peter Wright, etc. Et il y a une autre phase où on commence à ouvrir des écoles derrière. Dans la première phase, donc, qui correspond à celle de création d'une entreprise, j'ai vu mon père passer par les hauts et les bas. Les bagarres avec les banques, les DAI, les banques qui vous appellent parce que le financement DAI, il faut que vous arriviez à déterminer exactement quand on va vous payer. Vous ne savez jamais quand est-ce qu'on va vous payer. Bref, c'est des très mauvais produits, tout ça. Bref, on a fait 10 années de galère au niveau du cash. En 93, j'arrive. En 96, on monte le concept. De 93 à 96, on est passé par la banque qui nous adore à la même personne qui nous déteste et qui dit à mon père, du jour au lendemain, on vous a prêté 1 million de francs, vous me les remboursez sous un mois.
Pratique.
Oui. Donc, le...
Vous avez fait comment ?
Eh bien, il a pioché dans ses poches et il a mis tout l'argent dedans. Et après, c'était à moi de veiller à ce qu'on puisse le rembourser.
C'est débrouillé, très bien.
Voilà. Donc, et cela, et puis c'était la Bred à l'époque, j'ai aucun problème à le dire. Un certain monsieur Chevalier, la rancune peut être tenace, et qui nous a expliqué à l'époque qu'il était patron du centre d'affaires, mais qu'il ne connaissait rien aux entreprises.
Ouais, bah ça, malheureusement.
Donc, toujours intéressant. Heureusement, il y a d'autres banques qui ont pris le relais. Assez étonnamment, des banques sœurs. Donc, là, on est resté dans le groupe Banque Populaire. Ils ont pris le relais. D'accord. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire notre premier gros investissement qui était notre première école en dehors des deux premières qui se trouvait dans la tour Montparnasse. Et à l'époque, j'avais dit à notre agent immobilier, trouve-moi des écoles dans Paris avec, en ordre de préférence, alors Opéra, République, Place d'Italie, La Nation et tout, en tout dernier, tour Montparnasse. Et il m'a dit, j'ai quelque chose tour Montparnasse et donc des fois, il faut inverser l'ordre des choses. Et là, ça a décollé. Et là, ça a vraiment décollé. On avait des super lotco, absolument pas aux normes Wall Street, parce qu'on était au 18e étage d'une tour, alors qu'il faut être au rez-de-chaussée normalement. Mais quand vous rentrez dans la tour Montparnasse, comme disait Chirac, C'est la plus belle vue de Paris, car c'est la seule dont on ne voit pas la tour.
Exactement, exactement. Je veux dire, et on la préfère
vue,
ne pas la voir.
Et la vue de Paris, du 18e étage de la tour Montparnasse, c'est assez fabuleuse. Et on a mis, alors à Paris, c'était une folie, parce que je crois qu'on a mis 10% du coût d'investissement d'installation dans la tour dans une porte en verre coupe-feu qui coûtait une fortune, mais juste pour permettre aux personnes de voir la vue de Paris quand ils arrivaient par le couloir.
D'accord.
Voilà.
Donc quelques dépenses somptuaires, quoi.
Oui, mais je pensais que c'était dommage de pas.
Non, t'as raison.
Et puis l'effet produit dans les 10 premières secondes, ça compte.
Ouais, c'est clair.
Ça compte.
C'est clair. Toujours pour parler de la franchise, donc si je comprends bien, c'est au bout de à peu près deux, enfin finalement la troisième franchise où vous commencez vraiment à répliquer. Et vraiment, une fois de plus, mon but c'est d'essayer de comprendre comment vous avez fait et voilà ce qui pourrait être adapté à d'autres domaines. Pour moi, un truc très important dans la franchise, d'après ce que je comprends, c'est la notion de système et de réplicabilité. Et donc, t'arrêtes pas d'insister sur le fait qu'il y avait un peu un playbook Wall Street qu'il fallait décliner et que finalement, d'ailleurs, vous aviez un petit peu parfois été borderline quand tu te mets au 18e étage. Pour qu'on comprenne concrètement, quand tu dis « Ok, maintenant, on a les moyens de lancer une nouvelle franchise », comment ça se passe? Quel est le degré de granularité? Je me rends absolument pas compte et j'imagine que c'est variable en fonction des différents types de franchises, mais quel est le degré de granularité qu'on va avoir quand on a un playbook, voilà, justement, qu'il faut décliner? Est-ce que c'est à la fois au niveau des RH, du type de personnes que tu recrutes, au niveau de la formation, au niveau du lieu, du retail, de l'empreinte retail et de l'identité visuelle? C'est assez vague comme question, j'entends bien, mais juste pour qu'on comprenne, concrètement, quelle est la différence, si tu veux, entre être entrepreneur où tu fais tout et tu dois tout inventer, et là, le niveau de franchise où, en fait, j'ai l'impression que le travail, c'est d'inventer, réussir à faire venir des gens, mais par contre, tu as un espèce de socle quand même commun d'un produit qui existe et qui fonctionne normalement. Donc, essayer de comprendre un petit peu ce...
Alors, fondamentalement, la différence, elle est dans le type d'entrepreneuriat. Beaucoup d'entrepreneurs veulent être les créateurs de leur bébé. Et c'est d'ailleurs quand on est créateur de son bébé que c'est très difficile à le transmettre à son fils, à sa fille ou autre. Mon père n'était pas créateur de son bébé. Et quand on est dans la franchise, on n'est surtout pas créateur. Si vous êtes créateur, on vous vire de la franchise. Parce que vous allez commencer à nous dire, bah moi je pense que là le bleu qu'on a mis sur l'enseigne, ce serait mieux en vert. Ouais. Et puis là vous avez mis des ordinateurs comme ça, mais je pense qu'il vaudrait mieux mettre comme ça, etc. etc. Et donc il faut avant tout être développeur et accepter le fait que vous fournissez chez quelqu'un et que vous développez un concept parce que vous pensez que le concept est bon. Si vous n'abordez pas la chose de cette manière-là, vous êtes très malheureux et puis votre franchiseur va être très mécontent. D'accord. Donc en fait, c'est assez facile la franchise. Enfin, pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas créateur, c'est très facile. Moi, je suis un développeur, je ne suis pas un créateur. J'aime pas créer.
J'aimerais bien avoir le nombre d'employés que tu as et le nombre de boutiques.
Hein. Oui, mais bon, justement, beaucoup de personnes se noient dans la création. Alors que, bon, finalement, si on a un bon produit, pourquoi juste pas le
répliquer? Il faut quand même croire au produit initialement.
Ah oui, bien entendu.
Forcément.
Bien entendu, on pense que le produit est bon. Là, très très récemment, j'ai eu des discussions avec pas mal de financiers qui nous disent « Ah bah oui, mais le risque chez vous, c'est que vous ne contrôlez pas le produit et que donc s'il y a un problème et si le franchiseur fait n'importe quoi, la boîte peut couler. » Et la réponse, elle est toute simple. Elle dit, quelle est la garantie? Quelle garantie auriez-vous que je ferais mieux qu'eux?
Oui.
Tout bêtement. On part du principe que parce qu'on contrôle, on fait mieux. Non, moi, je pense que parce qu'on contrôle, on fait moins bien en création. Et les stats le prouvent. Il y a 80% des boîtes qui sont créées qui ferment.
Oui.
Et donc, ça veut dire que quand on laisse à Monsieur Lambda le soin de créer, on prend un risque
bien
énorme.
Sûr.
4 fois plus élevé que quand on prend un concept éprouvé. Et l'avantage du concept éprouvé, c'est qu'il a passé ce risque des 80-20 et donc on prend la relève. Et à partir de là, on a un concept qui fonctionne. Bon, il faut bien négocier le contrat, bien entendu, pour pas... Il y a vraiment des contrats de franchise qui sont très dangereux. Et là où on a véritablement eu un tournant dans la franchise, c'est en 91. Parce que de 96 à 91, on a ouvert pas mal de centres. On est passé de 2 centres à 70 centres, mais on a eu 2 guerres majeures donc en 15 ans avec nos franchisés, puisque le franchiseur n'était pas structuré suffisamment pour accompagner tous ces franchisés. Et donc, on était un peu... Enfin, on appliquait un système que moi et mon partenaire de l'époque, qui était le franchiseur de Suisse, qui avait des intérêts en France, nous étions appliqués à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on avait pris le produit, on s'était débrouillé, ça avait marché. Et donc, quelque part, dans notre tête, on dit, bon, on donne le système à nos franchisés, ils sont pas cons, ça va marcher. Et ça marchait pas aussi facilement que ça, ils avaient besoin de beaucoup plus de soutien. Et donc, deux gros procès qu'à chaque fois, le franchiseur gagne, bien entendu, parce qu'on n'est pas bête, on respecte le contrat. Mais des franchisés, bon, enfin, c'est l'histoire classique du franchiseur
frustré
de la franchise,
le
franchisé
gros,
frustré, le franchisé persuadé qu'il a plus de droits que qu'il n'a, etc. Et donc en 91, je prends le contrôle du franchiseur, puisque je partageais le contrôle avec mon partenaire suisse, hein, et je prends le contrôle, je dis ok, on change les contrats. Et on est passé sur de la franchise participative et surtout avec option de renouvellement automatique.
Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire?
Alors dans la franchise, tous les contrats, ou 95% des contrats, sont des contrats à durée déterminée.
D'accord.
Et il faut faire très attention, parce que dans le droit de la franchise, un contrat à durée déterminée, ça s'arrête du jour au lendemain sans indemnité. Donc, le franchisé, finalement, il passe 10 ans de sa vie à développer un business, et il perd tout. Donc, il est rentier pendant qu'il a le contrat, et dès qu'il n'a plus de contrat, il n'a plus rien. Alors, on va dire, oui, il peut éventuellement avoir une école d'anglais, il tombe la marque, etc. Oui, on a, dans le cadre de négociations sur le nouveau contrat, qui ont été difficiles, on a 15 franchisés qui ont quitté le réseau en disant, tu vas voir, on va te faire une super concurrence, etc. Ils sont tous en faillite.
Ouais.
D'accord ? Pas pour dire qu'on est particulièrement bon, mais clairement, aujourd'hui, dans la franchise et avec les 75% des franchisés qui sont restés, on a cette humilité de dire on ne sait pas exactement pourquoi ça marche mieux que les autres concepts et donc on touche à rien. Parce que...
un bon état d'esprit.
Oui, non, mais c'est... Et ça marche mieux. Il y a une combinaison du produit, il y a une combinaison de la forte présence commerciale, la marque, la pub.
C'est ça, oui,
tout
c'est
ça fait que ça marche. Et donc on a un équilibre qui a été atteint et on touche plus à rien. Donc, bien entendu, on essaie d'innover en termes commerciaux et autres, mais on a eu la preuve que des gens qui avaient 15 ans de métier, qui connaissaient tous les secrets de Wall Street, on les a laissés 2 ans tout seuls, ils ont fait faillite.
C'est quand même fou quand ils pensent.
Oui.
Incroyable.
Oui. Parce qu'ils se sont dit, ah bah oui, ça c'était pas terrible, donc on va le changer, et ça c'était pas terrible, donc on va le changer. Et c'est le créateur qui revient. Le créateur revient. Et ils se plantent. Donc on a changé cela de façon un peu violente au départ. Moi, j'étais considéré comme le financier de la boîte, au cœur relativement pas tendre. Et donc j'ai été voir mes franchisés, je leur ai dit, écoutez, vous avez un contrat qui s'éteint dans 3, 4, 5 ans. Moi, j'ai des droits à vie. Donc, je vous propose de vous donner mes droits à vie contre 20% de votre boîte. C'est pas passé très très bien au départ.
Ouais.
Mais je leur ai dit, il vaut mieux avoir 80% de quelque chose que 100% de rien.
Tout à fait.
Et au bout de 3-4 ans de négociations, alors il y a 2-3 franchisés qui ont dit oui tout de suite. Étonnamment, des franchisés qui avaient déjà des actionnaires dans leur tour de table, qui disent « c'est pas complètement con ce qu'il vous dit là, c'est pas agréable, mais c'est pas complètement bête ». Et avec ma femme de l'autre côté qui me disait « t'aimerais qu'on te fasse ça à toi ?» Oui, mais bon, bref. Et donc, on s'en est sorti notamment en leur accordant des territoires supplémentaires. Donc, ils perdaient 20%, mais ils gagnaient un territoire. Donc, a priori, ils avaient de quoi faire au moins plus que 20% de chiffre d'affaires en plus. Et donc, bon an, mal an, on arrive à établir, à signer ces contrats. Il y a un troisième procès mené par les autres, mais qu'on a gagné. En gros, c'était 3-0 France-Brésil. Donc là, c'était vraiment... le juge n'a donné aucun droit aux franchisés.
Donc quand même des embrouilles juridiques pendant des années.
Jusqu'à 2014.
Ouais. Incroyable.
Mais sur l'ancien contrat. Et depuis 2011 que nous avons le nouveau contrat, j'ai même pas reçu un email de plainte. Et c'est la grande surprise, parce que moi j'avais fait simplement une manœuvre financière, comment je rentabilise mes droits. Et les 20% qu'on a pris chez nos franchisés ont créé une relation de partenariat entre le franchiseur et le franchisé. Et aujourd'hui, toutes les décisions qu'on prend, c'est des décisions que nous prenons en commun, dans des commissions où on travaille ensemble. A priori, on a les mêmes intérêts, on a le même business, donc ce n'est pas très très compliqué de tomber sur les mêmes décisions. Et on n'a plus de conflits. Et quand je dis à mes collègues franchiseurs que depuis 2011, on n'a pas le moindre conflit, la moindre plainte, qu'on travaille super bien avec nos franchisés, qu'on les écoute, ils nous ramènent plein
ils
de...
Ils n'y croient pas, quoi.
Ah non, ils n'y croient pas. Ils...
Parce que c'est assez commun, donc.
C'est même la règle structurante de la franchise. Au niveau franchiseur monde, Pearson, qui était notre franchiseur, a vendu à des fonds chinois il y a un an et demi. Et les fonds ont demandé l'État, au moment de la due diligence, l'État des conflits
bien
avec
sûr.
Les franchisés. Et là, pareil, là, on dit, mais il n'y en a pas. Et ils n'y croyaient pas. Donc, on est un réseau où on travaille, on se connaît depuis très longtemps, on travaille entre entrepreneurs, on a très souvent porté un courant qui allait à l'encontre du marché. Hein, notre marché étant celui des particuliers, alors qu'en France, on ne parle que du B2B,
ouais,
etc., etc. Et donc, on a l'habitude de serrer les coudes et de faire autrement. Et c'est super agréable.
De passer sa... C'est vrai que quand tu es entrepreneur, passer sa vie, je sais ce que c'est aussi à faire du juridique et à ne pas développer ton activité, c'est un côté extrêmement frustrant.
Ah, mais on s'est souvent dit entre 2011 et 2014 qu'on avait une chance inouïe que nos concurrents étaient nuls. Parce qu'on n'avait pas le temps on n'avait pas le temps de faire deux guerres en même temps.
Et justement, alors si on revient quand même sur la guerre plus business, celle qui est plus intéressante au fond, tu dis avec beaucoup d'humilité que vous n'avez rien inventé et que voilà, vous êtes juste des développeurs. Mais quand même, visiblement, vous êtes les seuls à avoir réussi à percer sur ce marché du cours d'anglais pour particulier, malgré pas mal de concurrence, j'imagine. Est-ce que tu identifies des facteurs clés de succès ? Enfin, qu'est-ce qui fait quand même que pour toi, Wall Street s'est autant développé ? Alors, je ne te parle pas uniquement au niveau de la notoriété, mais je crois que vous avez plus de 200 centres maintenant, quelque chose, même peut-être je dis une bêtise.
Non, on en a 50 actuellement.
D'accord.
Et on veut en ouvrir encore 50.
D'accord, donc bon, mais quand même vraiment significatif. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que dans la durée, comme tu le disais, vous avez réussi à continuer à développer l'activité, à recruter des franchiseurs, recruter des clients aussi en parallèle, plus que d'autres qui auront essayé de s'élancer, peut-être avec un playbook aussi, mais pas de la bonne manière.
Alors, on a initialement été obligé de se plier aux règles du marché B2B, qui était le marché français avec la formation professionnelle et autres, alors qu'on était une boîte B2C. On peut plier une boîte B2C pour aller chercher un marché B2B. On l'a fait pendant 30 ans, on est devenu numéro 1 français. On ne peut pas faire l'inverse.
C'est difficile, oui.
Aujourd'hui, Berlitz vient d'être liquidé depuis 2015, depuis que le marché est passé en B2C. Il y a plusieurs choses qui marquent, qui sont les barrières d'entrée dans du B2C, quand on est structuré en B2B. La première est la moins évidente, mais une fois qu'on l'explique, elle devient évidente. Une boîte B2B va avoir 4 ou 5 vendeurs de haut niveau qui vont parler avec des responsables formation, des directeurs financiers, des PDG, qui vont avoir des réunions, faire des petits déjeuners, des dîners,
des
et négocier
très long
un
terme,
contrat pour 1000 personnes.
Exactement.
Dans le marché B2C, il faut accueillir les 1000 personnes. Il faut leur faire 1000 ventes. Et donc, il faut du monde. Et soudainement, vous vous trouvez avec le même marché que Wall Street, sauf que vous avez 5 vendeurs et que Wall Street en a 200. Mmh. Et ça va très vite. Hein. Nous, on est capable de recevoir 4000 personnes dans la semaine. Eux, ils sont capables de recevoir 40 fois moins de personnes.
Et alors, comment tu fais, parce qu'à l'inverse, donc pour développer l'entreprise, comme tu dis, réussir à avoir toutes ces personnes qui exécutent quand même de manière fiable, alors qu'elles sont un peu éparpillées partout en France, les guidelines de Wall Street, avec en plus une dimension pédagogique forte, donc j'imagine pas évident quand même de tout faire respecter, faire rentrer dans le cadre. Ça me fascine un peu parce que, enfin, sans parler de moi, même sur une petite entreprise, je trouve que c'est très très difficile, évidemment, de réussir en fait à contrôler sans être, enfin, en laissant en plus de la place quand même, pas l'innovation, mais en tout cas, on va dire la proposition aux personnes qui collaborent. Comment est-ce que quel processus, quel système vous avez mis en place pour réussir justement à contrôler, tu vois, les outputs en fait de différents centres.
Alors, on est une franchise un peu comme McDo, par exemple, qui fournit le produit. Quand vous fournissez le produit, c'est quand même beaucoup plus facile à contrôler. Un McDo qui n'aurait pas de Big Mac ne serait pas catalogué comme un McDo par un client. Donc, en revanche, un restaurant fast-food qui aurait les Big Mac, les cheeseburgers de McDo et qui n'aurait pas l'enseigne aurait tendance à être catalogué comme un McDo quand même. Donc, nous, c'est la même chose. On a un produit qui est le même partout dans le monde et qui structure l'organisation du service que l'on rend aux clients. Donc, ça ne structure pas la vente, mais c'est ça que je dis quand on est développeur et pas créateur. Cette création qui consiste à dire quel produit est-ce qu'on donne aux clients, ça nous arrive tout près. D'accord ? Et nous, on suit les règles. Et avec 35 ans d'expérience de la franchise, on est vraiment revenu à quelque chose de fondamental, et les franchisés le comprennent de plus en plus, qui est de respecter les basiques. Chaque fois qu'on crée, on perd de l'argent.
Vous avez essayé de créer des trucs ?
Ah oui, oui. Là, j'ai sur 25 franchisés, j'en ai au moins 20% qui, à chaque fois, me disent « Ah, mais il faut absolument qu'on pense au marché du B2B, etc. » Alors, je dis « Mais le financement même du marché du B2B a été réduit par un multiple de 9 en 2015. » Pourquoi se concentrer sur un business dont le volume a été divisé par 9 alors qu'il y a un autre marché juste à côté? Je ne dis pas qu'on n'y reviendra pas, mais pour l'instant, ce n'est pas le marché le plus porteur. Et donc, on nous dit par exemple, « Ah oui, mais lui, il faut absolument que je lui donne un cours individuel. » Mais le cours individuel, ça ne rapporte pas d'argent. C'est le cours de groupe qui rapporte de l'argent. Et donc, et paradoxalement, le cours individuel rapporte plus d'argent aux franchiseurs par client. Parce que le franchiseur, lui, prend ses royalties sur le chiffre d'affaires, pas sur la marge. Ouais, et d'accord. Donc, je suis un franchiseur qui passe mon temps à leur expliquer qu'ils doivent vendre moins pour gagner plus. Donc, les rôles sont un peu inversés. Ouais, mais quand on se soucie de la marge de son franchisé, on s'assure une tranquillité à moyen et long terme, la tranquillité qu'on a aujourd'hui dans le réseau. Et en plus, bon, quand on a des franchisés qui gagnent de l'argent et qui ont de l'argent, quand on leur dit on va faire une campagne TV comme on va faire en janvier, ils disent tout de suite. Donc c'est beaucoup plus facile.
Mais je trouve ça hyper intéressant et ça rend humble en fait de se dire t'as un bon produit, il faut savoir dire non, il faut savoir ne pas essayer d'innover et juste déjà l'exécuter, mais c'est tellement difficile. Et je sais pas si t'avais vu ce film d'ailleurs, certainement, sur McDonald's qui s'appelle The Founder. Et il y a une scène qui est assez mythique quand même où donc c'est sur le fondateur de McDonald's, Ray Kroc, qui, le fondateur entre guillemets, donc le franchiseur de McDonald's, qui reprend le concept auprès des frères McDonald's, et tu vois en fait qu'à chaque fois n'ont pas réussi à développer justement des systèmes de franchise, justement parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ce contrôle, et qu'à chaque fois le type qui avait la franchise se mettait à faire non pas juste des pommes frites, mais faisait aussi, je sais pas, des chips et du kebab, etc. Et donc en fait le concept même de la franchise à chaque fois était complètement
les gens battu se rendent pas compte du coût, pas tellement financier, mais en temps que cela représente de créer quelque chose. Et j'ai des franchisés, j'ai vraisemblablement eu tort, j'ai des franchisés qui récemment ont créé des toutes petites écoles de salles. Donc, en me disant, mais on va les gérer à partir du satellite principal, et puis vous voyez, ça va aller, tout ça. Et Et l'autre jour, je leur parlais, ils me disaient, mais tu vois, finalement, ça marche, on fait du chiffre d'affaires, etc. Et je leur dis, mais combien vous auriez fait de chiffre d'affaires en plus dans votre école principale si vous ne vous étiez pas focalisé sur la petite école que vous avez mis 2 ans à lancer?
Ouais, c'est ça, c'est le coût d'opportunité.
Et c'est le coût d'opportunité que les gens ont du mal à percevoir. Et comme on est une boîte de frais fixes, donc on doit rentabiliser les frais fixes de l'école, il y a très peu de coûts variables chez nous. Eh bien, une fois que vous avez dépassé le montant du point mort, oui, c'est que du profit. Alors que de la petite école, il faut encore rajouter, je ne sais pas moi, 100 000 euros de point mort
à dépasser. C'est l'effet d'échelle, quoi.
Voilà. Et bon, on ne fait pas toujours les choses bien, mais le réseau est...
Ça, vous l'avez fait pas mal.
De plus en plus, plus en plus focalisé sur le basique.
J'ai une question, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast et peut-être certains d'ailleurs qui se posent la question de la franchise. Toi, en tant qu'entrepreneur développeur, quel conseil est-ce que au sein de ces 35 ans de carrière justement te paraissent les conseils que tu aurais aimé entendre toi quand tu t'es lancé pour justement devenir développeur d'une activité comme la tienne?
Bon, le conseil de base, il faut toujours croire en soi. Si jamais un banquier vous dit il n'y a pas de marché, il faut y aller.
Bon conseil. Hein?
En général, quand un expert comptable et un banquier vous disent il y a un marché, il faut s'inquiéter. Parce que ça veut dire que c'est un marché qu'ils connaissent, qui est établi, donc il y a plein de concurrence et que vous n'êtes pas en train
toi,
de
toi, les banquiers vous disaient...
Ah oui, tout le monde nous disait que ça marcherait
pas. Et pourtant,
pas.
Il y avait quand même un concept qui existait en Italie qui tenait.
Le marché était B2B, point à la ligne. En France, personne n'allait dépenser la moindre argent pour se former à l'anglais alors que la formation professionnelle existait. Ce n'était pas sot hein, comme raisonnement, sauf qu'on a démontré le contraire. Et que si on a réussi, même quand le métier était essentiellement un métier B2B, c'est parce qu'on avait... Même pas la moitié. On avait 35% de nos ventes en B2B et il y avait quand même 65% en B2C. Et donc, on exploitait la faillite du système précédent de formation professionnelle qui a été modifié en 2015 où les marchés étaient contrôlés par les entreprises, ouais, et donc les budgets n'atteignaient pas les personnes qui voulaient se former. Les budgets n'atteignaient que les personnes que les entreprises voulaient former, ce qui était très différent.
Bien sûr.
Maintenant, depuis 2015, chacun d'entre nous, ils peuvent choisir, ils ont un budget, ils ne le savent pas, et surtout, ils peuvent choisir sans demander l'aval de son entreprise.
Sans le dire aussi,
je crois. Sans le dire. On a une obligation de confidentialité s'ils nous demandent de la respecter par rapport à l'entreprise.
Donc, c'est le compte de formation, c'est bien
voilà.
Ça.
Voilà. Et donc, on a des personnes qui viennent nous voir comme des individus, ils voient la pub dans le métro, la pub internet, bientôt la pub à la télé, et on les convainc de s'inscrire. Mais le gros avantage qu'on a sur nos pays frères, les 26 autres pays dans lesquels il y a des Wall Street, hein, c'est qu'eux font le même métier que nous, mais que nous, nos clients, ils ont un budget.
C'est clair.
Et les autres pays me rayonnaient. On leur dit, on est les meilleurs du monde et tu parles. Avec ton budget de
c'est
CPF
clair.
Et autres, c'est facile.
Bah,
Les personnes viennent nous voir et s'inscrivent et personne ne le sait. Et alors, ce qui était extraordinaire en 2015, c'est que le grand débat des partenaires sociaux était de dire, mais comment est-ce que l'individu va se démener dans cette jungle des organismes de formation sans l'aide des syndicats?
Bien sûr, l'aide des syndicats. Hein,
en fait, les syndicats, eux, ils touchaient leur com sur le budget de formation. Donc, ils ne voulaient surtout pas que ça parte. Et, et on se rend compte que... Et surtout, le grand débat était est-ce qu'on devait se former pendant le temps de travail ou hors du temps de travail? Les syndicats étaient...
Pendant le temps de travail.
Mordicus pendant le temps de travail. 95% des personnes qui viennent me voir demande la confidentialité, donc demande à se former en dehors du temps de travail, puisque vous ne pouvez pas ne pas informer votre entreprise que vous êtes en formation.
Si vous êtes censé être sur votre travail, bien sûr.
Si vous allez en formation, sinon vous êtes absent. Ouais. Donc et c'est étonnant. Et donc, on a en France des corps, les entreprises, le premier décor, c'est l'entreprise, on a les branches, qui reprennent, et on a les syndicats qui pensent à la place des autres et qui vous disent ce que les
parce que le marché, ouais,
et donc pas la jungle des OS, des organismes de formation, mais cette jungle de clients incultes, ignares, absolument incapable de prendre une décision pour elle-même, ils décident de penser à leur place. Et le marché, dès qu'on l'ubérise quelque part, parce que c'est une sorte d'ubérisation, mais oui, là, pour le compte, très positive, parce que ceux à qui on envoie...
T'enlèves les intermédiaires.
Oui,
quoi.
Ceux à qui on enlève le pouvoir, c'est l'intermédiaire, et ce n'est pas une exploitation du chauffeur de taxi ou quoi que ce soit, ouais. Ou du chauffeur de VTC. Là, la personne retrouve tout son pouvoir et décide si elle va aller chez Wall Street, plus chez Berlitz parce qu'ils ont fait faillite,
ou même dans un autre domaine.
Exactement. Et c'est étonnant parce que, et je pense que la ministre a eu parfaitement raison d'appeler sa loi, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et c'est ça. Parce que quand on a des financements qui sont contrôlés par l'entreprise, bien entendu, l'entreprise veut former à ceux qui l'intéressent. Si jamais vous allez voir l'entreprise et vous lui dites « moi j'aimerais faire autre chose », il veut partir lui, immédiatement. La branche, elle ne veut pas financer une autre branche, donc elle garde des formations bien centrées sur la branche. Et la région, l'Île-de-France n'a pas trop d'intérêt, a priori, à former des gens à la viticulture.
Bien sûr.
D'accord ? Donc, ça crée des sources de freins à la mobilité. Et la mobilité, c'est quand même un des premiers piliers de l'emploi. Si on est mobile... géographiquement parlant, ou d'entreprise à entreprise, ou de branche à branche, on a plus de chances de trouver du boulot, surtout si on est à Amiens et qu'on est ouvrier dans l'usine Goodyear qui vient de fermer.
Ouais, c'est sûr.
Donc, je pense que on ne le voit pas bien, mais on est en train de vivre une petite révolution. Et surtout, ce qu'on ne voit pas, c'est à quel point nous faisons, pour une fois, très bien les choses de façon très différente que nos partenaires européens. Et que tous les autres partenaires européens sont en train de nous regarder.
Oui, c'est vrai que c'est une spécificité assez française.
Et là, ils se disent, les Français, ils ont trouvé.
Mais ce que je trouve, en plus, au-delà de ça, intéressant dans ce que tu dis, c'est cette idée, et là, je m'adresse plus à l'entrepreneur, de dire, quand tu as un concept, ou on va dire une croyance qui est universellement partagée, et si tu sais qu'elle peut être fausse, si tu sais qu'en fait, tu peux la battre en brèche, que tu peux l'exploiter, c'est là où il y a réellement une opportunité d'entrepreneur. Parce que finalement, comme tu le disais, tous tes concurrents, eux, se jettent sur le B2B. Et l'énorme opportunité au milieu, alors avec le petit coup de chance, effectivement, du compte formation, mais quand même, c'est de s'adresser au B2C directement. Et en fait, il faut complètement penser reverse de l'état d'esprit commun, quoi. Et finalement, je pense qu'être entrepreneur, c'est aussi, enfin, un bon entrepreneur, en tout cas, c'est aussi essayer de saisir ce genre de, on va dire, de contradiction, quoi.
Il y a une maxime aux États-Unis qui dit que pour être numéro un de son marché, il faut établir les règles. Il faut changer les règles et établir de nouvelles règles. Et je pense que l'exemple de Wall Street, ça a été ça. Il y avait des règles qui étaient les marchés B2B et autres. Nous, on est arrivé avec notre approche B2C. On s'est adapté à un marché B2B qui existait. On a créé un marché B2C, puisqu'on avait quand même 65% de notre chiffre sur le B2C. Et on a explosé le marché. Aujourd'hui, Wall Street, ça fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le premier concurrent est à 20.
Ouais.
Et après, ça tombe à 10. Il y a personne, quoi. Donc la mauvaise nouvelle pour la concurrence, c'est qu'on est en train d'accélérer très sérieusement.
Écoute, justement, alors quelques conseils pratiques quand même pour nos amis entrepreneurs et autres qui écoutent. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois autour de toi, justement, alors que ce soit via tes franchisés ou que ce soit via d'autres entrepreneurs?
Toujours penser que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la rue.
C'est-à-dire
que le temps que l'on peut passer à développer un produit, à créer un produit, même nous à Wall Street en disant « il nous faut absolument ça ». Et donc, bon, au bout d'un an et demi, mes commerciaux m'ennuient, donc je développe le fameux produit. Et dès qu'on leur donne, ils ne l'utilisent pas. Parce qu'il y a un nouveau produit.
Ouais.
Et les commerciaux ne sont jamais contents du produit qu'ils doivent vendre. Parce qu'ils ne sont pas forcément
très bons.
L'attrait
de la nouveauté aussi, quoi.
Oui, et puis... c'est pas le produit.
C'est pas le produit le problème.
C'est pas le produit le problème. On a longtemps eu un produit un peu outdated avec Wall Street. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, puisque depuis l'année dernière... Enfin, en avril l'année dernière, on a eu le prix de la meilleure plateforme d'enseignement de l'anglais dans le monde. Donc là, on a le meilleur produit mondial, mais on a longtemps eu un produit, franchement, qui avait été créé dans les années 2000 et ça se voyait. Bon, bah, mes commerciaux, ils vendaient ça comme une Rolls-Royce. C'était le meilleur produit du monde, etc. Ceux qui n'arrivaient pas à le vendre, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à le vendre. Et c'était pas le produit, parce que d'autres arrivaient à le vendre. Et c'est une des grandes chances que l'on a quand on est dans un réseau de franchise, c'est que quand quelqu'un vous dit quelque chose, bah vous allez chercher celui qui fait autrement, ou qui respecte les règles, qui marche très bien.
Oui, tu peux comparer.
Et on peut comparer. Et le fait de pouvoir comparer dans un réseau, c'est fabuleux. Il y a un autre truc qui est fabuleux dans un réseau, et c'est quelque chose qu'on a établi depuis que notre réseau est en paix, et que tout le monde se considère comme partenaire, c'est le partage des coûts. Et on est, quand on fait un investissement, on le fait en commun et on divise par 50. Et là, ça n'a plus rien à voir. Et j'ai un de mes collègues au Wall Street...
Ça, c'est une pratique, je suis désolée de t'interrompre, qui est assez systématique en franchise ou c'est vous qui l'avez implémenté?
Ouais, j'ai un partenaire en Thaïlande, Wall Street Thaïlande, donc, qui a cherché à s'ouvrir au Cambodge, au Laos et autres. Et donc, ils sont venus nous voir pour demander nos conseils. Est-ce qu'ils devraient le faire? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors je lui dis, bon, vous avez combien de centres en Thaïlande? Il me dit 8. Et vous voulez en franchiser combien au Laos et tout ça? Il me dit 8. Je lui dis, bah, faut pas le faire. Dans la logique royalties et autres, c'est une pure ineptie. Vous allez faire un chiffre d'affaires équivalent à un chiffre, c'est-à-dire les royalties multipliées par 8, et vous allez augmenter vos problèmes de façon absolument énorme, exponentielle. Il dit, oh, d'accord, bon, on le fait pas. Je lui dis, bah, non, mais finalement, faut le faire. Il faut le faire parce que vous allez réduire vos coûts par deux. Vous avez 8 centres, il y a 8 autres centres, et débrouillez-vous pour acheter tout en commun. Et ce n'est donc pas au niveau des royalties que vous allez gagner, mais en économie.
Au niveau de la baisse des coûts.
Et nous, aujourd'hui, à Wall Street, on gagne en tant que franchiseur sur les royalties, et en tant que franchisé, puisque j'ai notre groupe franchiseur a 12 centres à lui qui sont traités comme des franchisés.
D'accord.
Et ces 12 centres ont vu donc leur coût divisé par les deux tiers, puisqu'on est 50. Et ça change tout.
Mais bien sûr, c'est de la marge.
Ça change tout. Et donc, quand on fait une campagne Google, quand on fait une campagne télé et autres, mais on ne paye absolument pas ce que nos concurrents payeraient.
Bien sûr, tu divises tout par 50. Quoi.
Et là, c'est très difficile à résister.
C'est le pouvoir de la franchise.
Du réseau. Ouais. Du réseau qui s'entend bien.
C'est ça.
Et avec un patron de réseau qui a un certain nombre de prérogatives données par le contrat de franchise. Et à partir du moment où il l'utilise bien et qu'on montre bien à tout le monde qu'on le fait dans l'intérêt du réseau, franchement, tout se passe bien.
Tout le monde s'aligne. Mmh. Si on parle un petit peu, parce que le temps passe, plus de questions personnelles et de toi, on a commencé à discuter de nourriture juste avant de commencer, et notamment du régime cétogène, si je ne me trompe pas, que tu suis. Et j'ai fait un peu mes petites recherches sur toi, et donc j'ai vu que tu es un grand sportif, triathlète, marathonien, enfin voilà, et puis ça se voit, tu es fit comme tout. Ma première question, c'est, ça a toujours été important pour toi de réussir à concilier une vie professionnelle hyper active et successful, et en même temps de te pousser aussi sur la partie physique personnellement, parce qu'on pourrait se dire, voilà, t'as déjà quand même beaucoup de choses à faire dans ta vie pro, t'aurais peut-être envie de te calmer un petit peu sur le reste, et j'ai l'impression qu'au contraire, chez toi, l'énergie appelle l'énergie, et que bah, le fait que tu te développes autant dans la vie professionnel doit aussi se retranscrire dans la vie personnelle.
Alors, on n'a pas le temps de tout faire. Hein. Donc, le problème du marathon,
c'est
des trails, ça prend beaucoup de temps, ça fatigue beaucoup le corps. Et entre marathoniens, avec les copains, quand on court, l'autre jour, je disais à un de mes copains, ah, t'es prêt pour le marathon? Il était gris. Parce que on est vraiment à la limite.
Ouais,
on est vraiment à la limite. Quand on est prêt, on est vraiment à la limite. Et quand on court un marathon en 3 heures, faut être prêt. J'ai un de mes franchisés, un de ses actionnaires, c'est un des franchisés qui a le premier souscrit au nouveau contrat. Son actionnaire me dit toujours, quand j'ai vu que tu avais fait un trail de 120 km et que ça t'avait pris 20 heures, j'ai dit, il va tenir le coup, celui-là.
Ce type est
faut
fou.
Pas, faut, sur la longueur, il va tenir plus longtemps que nous.
Ouais.
Et souvent, enfin maintenant, je le dis en termes de boutade, mais quand tous mes franchisés m'ont attaqué sur le contrat de franchise, qu'aujourd'hui ils sont ravis d'avoir signé, mais à l'époque ils ne voyaient pas l'intérêt. Je leur dis souvent, vous n'étiez que 28, vous n'étiez pas assez nombreux. Mais bon, j'aime bien les énerver de temps en temps. Mais donc le sport, c'est important. Et, mais
c'est
les
le
genoux,
temps.
Les chevilles, les tendons,
ouais,
ça fait mal. Et puis le dernier marathon que j'ai fait, donc c'était maintenant il y a trois ans, j'ai commencé le marathon, je me suis touché les tendons juste avant de commencer. J'ai dit, ah, ils me font déjà mal, c'est pas bien, c'est pas bon signe. Et c'est la seule course que j'ai jamais arrêtée. Parce qu'au bout de 25 bornes, je me suis dit, mais ils vont lâcher mes tendons. Mmh. Et je vais me retrouver avec des tendons d'Achille cassés, rompus, et donc il fallait arrêter. C'est pas agréable, surtout à New York, où si vous continuez à marcher, tout le monde vous encourage, mais alors si vous quittez la course, on vous repoussait dans la course pour absolument que vous remettre dedans, quoi. Bref. Et puis, j'ai découvert un peu, de façon un peu obligée, j'ai découvert que je devais m'arrêter parce que les tendons n'allaient pas mieux. Dès que je courais 30 minutes, ils s'enflammaient et autres. Et je suis tombé sur ce fameux régime cétogène qui est très étonnant pour une culture occidentale, puisque le principe, c'est que le sucre fait grossir et le gras fait maigrir.
Pour moi, c'est que du bonheur parce que j'aime pas trop le sucre et j'adore le gras. Donc.
Et ce qui est étonnant, donc je le commence. Bon, ça fait pas. Ma femme me dit encore un régime, etc. Ouais. Bref, parce que quand on est marathonien, on est méga régime, etc. Mais on est un méga régime sucre. Et je le commence, et puis finalement, c'est pas très compliqué, c'est assez facile. Je redécouvre le plaisir des haricots verts au beurre cuit dans la poêle, la crème fraîche 40%, les avocats, le truc. Bref, tout ce qu'on mangeait pas forcément et qu'on peut manger à volonté.
Mais par contre, zéro sucre, c'est-à-dire vraiment pas une once de fruits.
Pas de pain, pas de pain, pas de pâte, pas de riz.
Pas de
céréales
complètes
à faible indice glycémique comme le boulgour, le truc, les quinoas, rien de tout ça. Mais il y a tellement de choses qu'on s'interdisait de manger parce qu'il fallait pas de gras. Alors là, la côte de porc avec le bon gras tout autour. Quand on nous dit, alors vous voulez une viande rouge pas grasse, non très grasse avec tout le truc
mettez,
autour.
Allez-y, mettez plein de beurre dessus.
Non mais exactement. Et du beurre. Mais
là tu me disais le matin au petit déjeuner. Tu peux me répéter ce que tu m'as dit avant qu'on commence ? C'est quand même fascinant
ça. Au petit déjeuner, systématiquement, je mange ce qu'on appelle un café tibétain ou en termes américains le bulletproof coffee, puisque il y a un brillant entrepreneur américain qui a découvert ça au Tibet et qui en a fait un business.
Hein.
Et donc, je mange un café avec 10 grammes de beurre dedans et 10 grammes d'une certaine huile spéciale.
Ouais.
Et on mixe tout ça. Ça fait comme une sorte de mocha, en fait. Hein. Et c'est
oui,
pas
ça
mauvais.
Doit être crémeux, quoi.
Finalement. En fait, ça donne le même goût du café quand vous avez trempé vos baguettes au beurre dans le café.
D'accord.
Puisque le beurre fond dans le café, finalement, quand vous faites ça, et ça donne à peu près la même chose. Et c'est juste assez étonnant. Je ne mange que ça le matin, puisque je suis également jeûne intermittent tous les jours. Donc, je ne mange que de 1h à 9h du soir, 1h de l'après-midi à 9h du soir. Et donc, pendant 16 heures, je ne mange pas. Et ce que ça provoque, tout simplement, c'est que les réserves en sucre, parce que dans tous les aliments qu'on mange, il y a un peu de sucre quand même. Donc les réserves en sucre se déplient.
S'épuisent au bout d'un moment.
S'épuisent pendant qu'on dort. Et quand on se réveille, le corps n'a plus d'énergie. Donc dans les premières journées, le corps réclame son sucre. Et là, vous vous sentez pas très mal, mais pas très bien. Mais au bout d'une semaine, le corps a compris et il dit, j'ai un autre moyen de produire mon énergie, c'est les molécules de gras. Et il commence à taper, au miracle, dans le gras accumulé. Et le gras accumulé, on en a plein.
Beaucoup.
Et donc, on n'a pas de haut et de bas. puisque le sucre, on n'en a que pour 3 heures, alors que le gras, on en a pour tout le temps.
Tu n'as pas de crise d'hypoglycémie ou quoi que ce soit. Tu es un peu en mode four qui
exactement. Chauffe. Et on n'a plus d'inflammation.
Alors ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant aussi. Ce n'est pas uniquement pour des raisons de perte de poids, ou etc. Non. Au contraire,
je fais ce régime et il se trouve que parce que mon corps va mieux, j'ai perdu le poids. Aujourd'hui, je suis à mon poids marathon sans m'entraîner.
Alors que prenant du beurre au petit-déj ton café.
Oui. Et puis le soir, 3 grosses cuillères de crème fraîche. Alors, je prends un peu de fruits quand même, mais il faut prendre des fruits pas sucrés, comme les blueberries, les myrtilles et compagnie. Parce que ça me semble vraiment bizarre quand même de ne pas prendre de fruits. Mais il y a une vraie raison au fait de ne pas prendre de fruits et qui effectivement retarde de beaucoup l'entrée du corps dans le mode cétogène.
Parce que il y a quand même pas mal de fructose. Et puis c'est en plus, je crois que c'est. Enfin, moi, je suis pas.
Enfin, la vérité, l'explication derrière, mais il faut pas me lancer sur ce sujet-là. Hein. L'explication derrière, c'est que le sucre est réparti dans le corps à 20% dans le foie et 80% dans les muscles.
D'accord.
Alors que le fructose va 100% dans le foie.
Voilà, c'est ça.
Et donc, le foie, avant de produire des cétones, le foie doit se débarrasser de son sucre. Et là, il a 5 fois plus de sucre. Il n'y a rien de pire que le fruit. Ce qui est embêtant quand même.
C'est vrai, c'est bon. Oui. écoute, hyper intéressant pour ce petit cours de régime cétogène. Tu te fais accompagner quand même pour ça ou tu le fais
Non, moi je fais toujours tout seul. Je fais mes prises de sang et tout ça, je vérifie que tout va bien. Je me suis beaucoup, beaucoup renseigné. Et le problème, c'est qu'il y a très, très peu de médecins en France préconisent cela, puisque ça a été créé en gros en 2010. Et aucun de nos médecins n'a été formé dessus. Mm-hmm. Et si ça devait convaincre un certain nombre de personnes qui regardent sur Internet, il y a plein de choses sur jeûne intermittent, régime cétogène, et ce que le jeûne cétogène combat avant tout, c'est le cancer. Puisque les cellules cancéreuses ne se nourrissent que de sucre. Elles se nourrissent également de glutamine, ce qui est un autre acide aminé qui est présent dans tous les aliments. Donc, il y a des cancers qui vont réussir à se nourrir de ce qui est quand même disponible. Mais l'idée, c'est quand même que vous avez un jardin que vous n'arrosez plus. Donc, les racines des plantes qui sont en train de mourir sont encore là, mais vous ne l'arrosez pas. Donc, votre cancer, il est encore là, mais il ne se développe pas. Et c'est essentiellement pour ça que je l'ai fait au départ. J'ai dit, le cancer, je ne veux pas le nourrir. Mon père est mort d'un cancer, donc je me suis dit, non, on va faire autrement. Et puis après, quand on voit que c'est vraiment très, très facile à faire une fois qu'on est adapté, moi, je n'ai jamais faim. Je mange une fois par jour.
C'est dingue.
Ça ne me pose aucun problème de manger une fois par jour. Alors bien sûr, quand on a des déjeuners, on mange deux fois par jour, mais c'est pas grave.
Et niveau de l'organisation du temps, notamment à l'époque où tu faisais tes trails, tes marathons, tu disais on n'a pas le temps de tout faire. Toi, t'as en plus, si je me trompe pas, femme et 3 enfants, c'est ça.
Ouais.
Une vie autre que le boulot aussi, j'imagine. J'ai pas envie de te demander des trucs parce que j'imagine qu'il y en a pas, mais est-ce qu'il y a des choix que t'as dû faire peut-être justement parce que tu ne pouvais pas tout faire? Est-ce que, c'est quand même un investissement tel, un entraînement pour un trail, pour un marathon, avoir une vie de famille et avoir une boîte comme la tienne? J'ai du mal à visualiser comment tu fais tout rentrer dans la boîte.
Ouais, en fait, on est dans son trip, en fait. Ce qui empathise surtout, c'est la famille. Parce qu'on a les montées de dopamine, d'adrénaline, de trucs et tout ça. Moi, je me souviens, je ne pouvais pas faire un voyage d'affaires sans prendre mes baskets, mon truc, parce que j'allais me sentir mal. Donc, on est vraiment dedans. Le corps réclame, c'est sa drogue. Les endorphines et compagnie, il en a besoin. Quand on est dans un régime à base de sucre et autres, et quand on est dans un régime justement qui n'est pas dans ces bases-là, on n'en a plus besoin. Et c'est étonnant parce que passer de 60-70 km de course à pied par semaine à rien et avoir le même,
même
aspect physique, poids, etc., le même, on se dit mais pourquoi je me suis ennuyé à courir autant. Et surtout, on ne se blesse plus. Ah ouais. On a plus de problème de, j'ai plus de problème de genoux, j'ai plus de problème de tendons. Quand on fait du sport, on va bien. Le plus impressionnant, comme je disais tout à l'heure, le plus impressionnant, c'est quand on arrive à faire un jeûne de 7 jours sans que ça pose de problème.
Voilà, tu dois dire la première fois, ça doit
faire
bizarre.
7 jours à l'eau et au café.
Ce que tu fais maintenant régulièrement.
Ouais, et continue à faire des petits jogging, des pompes, des abdos, bref.
C'est fou à quel point le corps est quand même une machine
ce qui
s'adapte.
Ce qui m'amuse le plus, c'est que ce qui est vraiment, enfin, ce qu'on voit dans les livres est vérifié. Au bout de 3 jours de jeûne, si je vais voir le médecin, il appelle le SAMU. Parce que mon taux de sucre est tombé en dessous de 0,5, alors qu'il doit être à 1. Oui, mais à 0,5, je pars faire un jogging. Ça montre bien que mon corps se nourrit d'autres choses. Simplement, les médecins, ils ont l'habitude de mesurer que le sucre. Et pour ceux qui veulent être particulièrement intelligents, tout le monde dit que l'énergie de la cétone est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante pour le cerveau que le sucre, parce qu'elle ne génère pas de déchets. C'est un peu comme si on tournait à l'énergie solaire par rapport au diesel.
Bon, tu nous le vends bien en tout cas, mais on sent que ça te passionne.
Une fois que j'aurai vendu Wall Street, je crois que je vais faire ça.
Tu devrais, tu vois, si en plus il y a une opportunité, clairement. Pour terminer, quelques dernières petites questions. Est-ce que tu aurais un échec ou un moment vraiment difficile dont tu pourrais me parler et est-ce que tu en as tiré aussi comme enseignement?
En 2015, la loi a changé et malheureusement a été mal préparée par les partenaires sociaux. Donc ils ont décidé que les budgets de formation continue était à la solde des particuliers, mais que pour y accéder, il fallait que la formation soit certifiante. Et ils ont oublié de mettre l'anglais dans le certificat. Donc pendant 6 mois, on n'a rien vendu. Et donc, bien entendu, on a réagi dans tous les sens, mais 6 mois, moins 50% de vente, on a mis le groupe en sauvegarde.
Ah ouais.
Ouais, carrément. Oui, non, mais moi je vois la sauvegarde, c'est l'entrepreneur doit anticiper la crise pour permettre au groupe de survivre.
Ça gèle les dettes, c'est ça.
Ça gèle les dettes et on essaie de voir si l'entreprise, en dehors de son stock de dettes accumulées, est capable de vivre. Ouais. Il se trouve que la loi est rentrée en action une semaine plus tard. Donc, on s'est retrouvé avec un effet de ciseau assez miraculeux pour nous. À l'époque, on faisait le groupe au total. France faisait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires donc en juin 2015, il y a 4 ans. Et on avait 700 000 euros de cash. Donc, on était un peu limite. Aujourd'hui, on fait 60 millions. On a 20 millions d'euros de cash. On a une rentabilité au-dessus de... Enfin, celle du groupe franchiseur, la rentabilité est à 40%.
C'est monstrueux.
Et alors, ce qui est très étonnant, et c'est un de mes combats, c'est de montrer aux politiques à quel point le système bancaire ne vous pardonne pas la sauvegarde.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Aujourd'hui encore, alors que j'ai 20 millions de cash, on ne me prête pas un euro. Non, vous êtes en sauvegarde, monsieur.
Parce que là, tu es encore en sauvegarde?
Je suis encore, pas pour longtemps, mais on l'est encore.
D'accord.
On va en sortir. Mais le vrai problème, c'est que nous, on est une success story de rebond après sauvegarde. Mais comment font les autres? Les autres qui sont en sauvegarde et le marché ne se retourne pas, ils font ce qu'ils peuvent. Et on a un système bancaire qui fait tout ce qu'il peut
pour
vous empêcher de décoller. Mais vraiment tout. Alors, on a été voir le ministre, on a été voir la BPI. Tout le monde nous dit « Ah non, non, c'est pas vrai. Non, non, ils font pas ça. » Je peux vous assurer qu'ils le font. Mais alors, absolument, et ils vous le disent très clairement. Donc, il y a même eu des instructions à l'époque qui ne sont plus écrites de la Banque de France disant qu'on ne prêtait pas à quelqu'un qui était sorti de la sauvegarde pendant une durée d'un an. Et c'est un vrai problème, parce qu'on a un tribunal qui s'est prononcé sur la viabilité du projet pour une entreprise qui est quand même en situation difficile, et on lui rend la vie
encore
la pire qui soit.
Alors que quand on a beaucoup d'argent, emprunter de l'argent,
ah oui, c'est, non, c'est mais facile. Aujourd'hui, on me prête plein de l'argent, mais bon, certaines choses seront peut-être annoncées dans les mois à venir, mais les financiers, ils font la queue. Ouais. Donc, pas forcément les banques, mais les autres, oui.
Il faut trouver d'autres moyens de financement. S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ces 35 ans de carrière, qu'est-ce que tu referais de différemment ?
Probablement, enfin maintenant je sais ce qui marche le mieux par rapport au marché, j'aurais structuré le groupe de cette manière beaucoup plus rapidement. Ouais. On a violemment restructuré le groupe suite à la sauvegarde. Et en fait, on se trouve entre 2011 et 2015, on était dans une décroissance lente, un peu comme la France en règle générale. On avait un petit pourcent de croissance, voilà. Et puis, aucune grosse mesure n'était entreprise puisque c'était pas suffisamment grave pour faire une réforme. Mmh. On était dans cette structure-là. Quand on est arrivé en sauvegarde, c'était très grave et on a fait les réformes massives. On avait 12 centres à Paris, on n'en a plus que 5. On a la même surface, c'est-à-dire qu'on n'a pas réduit la surface, d'accord, mais on a regroupé les équipes dans des centres et autres et la profitabilité s'est envolée.
Super intéressant. Une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager, si tu en as?
Il y en a une que j'aime bien, bon, je vais le dire en anglais.
Tu n'as pas entendu parler anglais, c'est quand même dommage.
Et la maxime que j'aime bien, c'est « What would you do if you knew you couldn't fail ?» Et donc,
une question à
faire
se poser.
Fi de la peur de l'échec. On dit bah, « Je vais le faire parce que je sais que je vais réussir.
» C'est une question que tu essayes de te poser quand tu es face à un nouveau challenge ou tu essayes de...
Ouais, souvent, je me dis... et surtout si on me dit que ça ne va pas marcher. Mmh. Ça, j'aime bien.
Puis visualiser aussi, au final, si ça plante, ce qui va se passer, c'est souvent un peu moins grave que ce qu'on pourrait imaginer, quoi.
Oui, et puis, bon, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, n'oubliez pas que quand même, puisqu'on parlait de la sauvegarde, si vous prenez un risque et vous vous plantez, il y a quand même un super mécanisme en France de protection de l'entrepreneur qui est la sauvegarde. Mmh. Il faut surtout pas rentrer en liquidation. Ouais. Alors là, petit conseil, si vous rentrez en cessation de paiement, vous êtes donc mis en redressement judiciaire. Et si vous êtes en redressement judiciaire, la banque peut saisir les cautions. Si vous êtes en sauvegarde, la banque n'a pas le droit de saisir les cautions. Et donc, il faut vraiment se mettre, quand on est en difficulté, en sauvegarde avant le redressement judiciaire. Et comme ça, on protège sa maison. Et le fait que, enfin, moi, c'est un de mes grands credos, le fait que les banques aient le droit de saisir des biens au-delà de l'entreprise à laquelle elles prêtent, je trouve ça absolument inique. Ouais, on a des sociétés à responsabilité limitée ou par action, donc qui on ne demande pas aujourd'hui au patron de Total de donner une garantie personnelle pour avoir un emprunt pour la boîte.
Oui, autre sujet, éviter les garanties personnelles.
Ah non, jamais de garantie.
C'est la règle de base.
Jamais de garantie personnelle.
C'est sûr.
Il vaut mieux payer 2% plus cher que de mettre une garantie personnelle.
Tout à fait. Dernière question, les livres ou le livre que tu pourrais me recommander ou que tu recommandes autour de toi qui t'ont particulièrement marqué.
Alors c'est un peu bizarre, mais bon, c'est un livre américain d'un gourou américain qui s'appelle Anthony Robbins et qui s'appelle Unlimited Power. Et c'est assez passionnant, en fait. On se dit...
c'est bizarre. Il fait débat en ce moment, mais le livre vaut le coup.
Et on se dit, c'est... On n'est pas 100% crédule, on se dit il y a des choses qui sont gênantes dans ce qu'il raconte, mais il y a vraiment des choses qui marchent. Quand il parle de PNL et autres, c'est assez étonnant. Ça se vérifie. Et puis, il vous raconte des choses toutes bêtes. Hein. Écrivez vos objectifs, lisez-les-vous tous les matins.
C'est juste ce que tu fais, ça ?
Je ne le fais plus, je l'ai fait.
T'as plus besoin.
Ouais, ou je les ai en tête, quoi, ouais. Clairement. Et en gros, fondamentalement, ça conditionne l'esprit à lancer ses petites antennes sur quelque chose sur lequel il est finalement focalisé. Et l'idée, c'est de dire, bon, finalement, tous les possibles sont là, sauf que l'esprit, comme il n'est pas focalisé, il ne les détecte pas. Et il est ouvert à tout. Mais quand on est ouvert à tout, et ben, c'est comme la quantité de données qu'il y a sur Internet. Quand on nous dit on est espionné de partout, on est peut-être espionné de partout, mais il y a tellement de données que personne ne peut nous espionner. Donc, sauf à ce qu'on fasse une recherche bien spécifique sur quelqu'un. Donc c'est un peu la même chose. Et c'est surprenant de voir que quand on se fixe un objectif, qu'on se le répète, parce qu'en général, on trouve la solution en un mois. Donc, ou du moins une solution arrive assez facilement.
Oui, c'est ça, c'est pas nécessairement la solution initiale. Non. Parce que souvent, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on se dit, je vais y arriver comme ça. Mais en fait, ce qu'il explique assez bien dans le livre, c'est qu'il faut juste trouver parfois des chemins de traverse, mais juste avoir en tête l'objectif final.
Et ce que j'ai bien aimé dans la logique de la PNL, c'est quand il explique...
Donc, juste pour les auditeurs, la programmation neurolinguistique, c'est... Alors, certains diraient de l'hypnose, mais c'est une forme de reprogrammation, justement, de certains mécanismes de pensée de cerveau.
Quoi. Ça consiste à dire, par exemple, il a été voir les meilleurs snipers américains, de l'armée américaine, et ce qui l'intéressait, c'est de dire, mais qu'est-ce que vous vous dites dans votre cerveau avant de tirer ? Comment vous respirez ? À quoi vous pensez ? Est-ce que vous mettez une musique pour conditionner le cerveau ? Parce que la musique conditionne le cerveau à ce moment-là. Et en fait, il crée rien, il reproduit. Et là, si on croit ce qu'il nous dit, les résultats sont impressionnants. C'est-à-dire reproduire ce que font les meilleurs marche avec ceux qui sont derrière, mais il faut reproduire tout l'état d'esprit dans lequel ils se mettent.
Ouais.
Surprenant.
Hyper intéressant. Écoute, Nathanaël, je ne vais pas te prendre plus longtemps. Merci beaucoup.
Merci.
Pour cette interview. Si on veut te trouver, on va évidemment déjà chez Wall Street.
Voilà.
On va sur le site,
voilà.
Sur les réseaux sociaux. Si on veut te suivre personnellement, il y a un endroit où le faire sur le monde merveilleux du web ?
Alors, je ne suis pas très web, mais bon, je fais beaucoup d'interviews, de hauts, donc ça, on me voit à ce niveau-là. En général, ce que je raconte, mon marketing les met sur le site de Wall Street France.
Bien.
Voilà. Je suis sur LinkedIn, mais légèrement.
Pas très actif.
Pas très actif. Et sur Facebook, j'ai arrêté.
Très bien. Et éventuellement LinkedIn, messieurs, dames, mais sinon, allez plutôt faire un coucou au staff des équipes Wall Street.
Voilà.
Merci beaucoup. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.